parti pour un dimanche de campagne avec cette question ce soir. Comment faire campagne quand la guerre est au cœur des préoccupations? Car depuis jeudi, le contexte n'est plus du tout le même. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a changé la donne. L'arrivée de la guerre en Europe aux portes de l'Union est d'une telle gravité que les enjeux même du scrutin en sont modifiés. Les candidats l'ont bien compris, tous ont adapté leur rendez-vous de campagne. Certains ont même changé le discours à l'égard de la Russie. Alors, quelles en seront les conséquences? C'est ce que nous allons tenter de voir ce soir avec celles et ceux qui sont autour de cette table. Cécile Cornudet, bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique aux Échos. Charlotte Chaffonjon, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique à Libération, où vous suivez plus particulièrement Emmanuel Macron. Laurence Perron, bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter, où vous suivez la gauche. Comme tous les dimanches, avec nous Jean Massier.
Bonsoir
Jean, streamer politique sur Twitch. Ce soir, au Laïc Citoyen, s'intéressera à l'influence de la Russie dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Plus
jamais d'actualité. On n'oublie pas la semaine politique de Cyril Lacarrière, le rédacteur en chef de cette émission. Merci aussi à Adèle Domas, à Étienne Bertin, notre réalisateur, ainsi qu'à Tiffany Battistel, Sofiane Aktib et Jérémy Kaufmann qui sont en régie. Et puis, je vous rappelle que compte tenu de la situation internationale, il n'y aura pas de petit bateau ce soir avec Noël Bréham, mais un téléphone sonne sur la situation en Ukraine à partir de 19h20. Vous pouvez poser dès maintenant toutes vos questions sur la situation qui prévaut dans le pays, mais aussi au niveau international. Le numéro, vous le connaissez, le 01 45 24 7000.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Alors que la campagne ronronnait depuis un moment, qu'aucun grand sujet n'avait dominé les débats, jeudi, c'est la situation internationale qui s'est brusquement imposée comme le sujet numéro un de cette présidentielle. L'invasion de l'Ukraine par la Russie nous a rappelé que la paix n'était jamais définitivement gagnée, même si depuis bien longtemps elle nous semblait devenue une évidence. Jeudi, quelques heures après le début de l'offensive russe, Emmanuel Macron a tenu à s'exprimer dans une allocution diffusée à la mi-journée.
Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse.
Voilà pour ce court extrait de cette intervention. Le chef de l'État parle d'un tournant dans l'histoire de l'Europe. Cécile Cornudet, j'ai envie de dire que c'est aussi un tournant dans l'histoire de la campagne.
Oui, il y a un paradoxe, c'est qu'on a l'impression que la campagne est complètement écrasée. Déjà, elle n'intéressait pas les Français, mais alors là, il va y avoir très peu de bandes passantes, comme on dit, pour cette campagne. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est par cette thématique que peut-être on va rentrer dans la campagne. On dit toujours, vous savez, que l'international n'intéresse pas les Français, mais là, c'est vraiment frappant. Tout le monde ne parle que de ça. Les émissions font des records alors que c'est des sujets très techniques. On est tous devenus des spécialistes de SWIFT et de toutes les sanctions qui sont en train d'être prises. Et on regarde les candidats à ce prisme-là. Et si vous demandiez il y a 15 jours, à mon avis, quelle est la mesure phare d'Éric Zemmour sur le pouvoir d'achat, vous étiez incapable de répondre. Là, vous leur dites qui a dit il faudrait un Poutine français, ben, vous pensez Éric Zemmour. Donc je pense que la structuration de la campagne est en train de se faire sur ce sujet et ce n'est pas du tout anodin.
Un tournant dans la campagne, Laurence Perron, c'est votre avis aussi?
Oui, sans doute. Après, ce que je crains aussi, c'est que à mesure que la situation va durer, parce que cette guerre a priori est partie pour durer, c'est en tout cas ce que dit le président Macron et la plupart des observateurs, que les sanctions vont véritablement être appliquées et que il va y avoir des conséquences, comme l'a dit aussi le président Macron, directes sur le pouvoir d'achat éventuellement des Français, même si le gouvernement a décidé qu'il y aurait des chèques, qu'on serait résilient, etc. Je pense que ça peut changer un peu les choses. Il y a un sondage assez intéressant dans le Figaro qui disait qu'à plus de quasiment 60%, les Français n'étaient pas prêts à subir une perte de leur pouvoir d'achat pour l'Ukraine. Donc à un moment donné, quand véritablement les conséquences de cette crise vont se faire sentir directement sur une question qui était déjà une question très sensible, la question du pouvoir d'achat, est-ce que l'adhésion des Français à cette aventure militaire, entre guillemets, va continuer? J'en suis pas si sûre.
Alors n'allons pas trop vite.
Voilà.
On verra effectivement toutes ces conséquences, mais restons d'abord sur effectivement l'événement lui-même, Charles Chaffonjon, un tournant, vous qui suivez Emmanuel Macron de près, vous nous le confirmez?
Oui, alors en le suivant de près justement, en réalité pour Emmanuel Macron, ça fait déjà plusieurs semaines que la question l'invasion russe, ça fait depuis jeudi, mais que ce sujet est un sujet de préoccupation majeure, ça fait depuis fin janvier, début février, quand il a été acquis que Poutine avait massé 125 000 hommes à la frontière. Je me souviens d'un déplacement à Tourcoing sur la question de la désindustrialisation, donc qui n'avait sur le papier
pas grand-chose à voir, où Emmanuel Macron avait passé sa journée en réalité en coulisses à traiter uniquement de ce sujet, en appelant un petit peu ses homologues européens et en nous parlant entre guillemets en off que de cela. On se souvient qu'il s'était rendu à Kiev et à Moscou début février, le 7 et 8 février déjà, pour tenter alors ce qu'il appelle une désescalade.
Il était déjà effectivement très occupé par le dossier.
Ça fait plusieurs semaines en réalité que sa campagne et sa campagne qui ne dit pas son nom, mais enfin bon, on se doute qu'il est candidat à la présidentielle, est très impacté par ce sujet, et ça ne fait pas seulement deux jours pour lui. Donc, et ça fait déjà donc plusieurs semaines que ses équipes réfléchissent à des ajustements, à un agenda un peu différent.
Vous allez nous expliquer effectivement comment l'Élysée s'est mis en mode guerre, parce que j'imagine qu'il y a une réorganisation des choses. Mais on va finir ce premier tour de table. Oui. Jean Massier, vous qui surveillez tout particulièrement les réseaux sociaux, on peut dire que à ce niveau-là aussi, il y a un tournant
Bien sûr, on n'a pas la tête à la présidentielle, là, vraiment, l'ouverture du salon de l'agriculture, ça paraît bizarre, ça paraît même anachronique. Et il se trouve qu'on a une expérience récente de ce moment un peu bizarre où il y a une élection dans un moment où on n'y pense pas, c'était les élections régionales. Personne n'avait la tête aux régionales. Enfin, déjà que les compétences des conseils régionaux, c'est clair pour personne, surtout pas pour les jeunes, mais on était en plein seconde vague, Covid, restrictions, passe vaccinale, passe sanitaire. À l'époque, bon, 80% d'abstention chez les jeunes. Ça a été ça le résultat, à un moment où vraiment les jeunes me le disaient. Là, franchement, Jean, je suis désolé, je suis pas allé voter parce que ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Là, si l'élection avait lieu dimanche, là-bas, là, aujourd'hui, c'est vrai que ça aurait
été
très bizarre. Oui, il se trouve que c'est dans 6 semaines. Donc moi, je me demande comment est-ce que la campagne présidentielle va reprendre pied petit à petit dans l'actualité. Vous avez raison, la guerre va s'installer. En fait, ça va devenir une actualité qui va peut-être reculer en termes d'intensité dans ce que nous, les Français, lisons, écoutons toute la journée. Et la campagne va peut-être reprendre le dessus, on verra.
Avec des sujets régaliens, peut-être à la une, ce qui est aussi un événement. Et ce que disait Cécile Cornudet tout à l'heure, c'est aussi un fait majeur. Charlotte Chaffron-Jean, expliquez-nous maintenant comment se passe ce temps de la guerre à l'Élysée. Est-ce qu'il y a une organisation particulière? On sait que le Conseil de défense se réunit évidemment régulièrement. Est-ce quelque chose de particulier, un dispositif a été mis en place?
Alors moi déjà, ce qui me frappe, c'est à quel point ils évoluent au jour le jour. Alors qu'à 6 semaines d'une présidentielle, c'est vrai qu'on pourrait envisager la nécessité d'avoir des perspectives. Et là, on ne dispose pas de l'agenda du président de la République, ce qui est quand même assez particulier parce qu'effectivement, il se construit vraiment en fonction des événements, en tout cas pour les prochains jours à venir, et je ne suis pas capable de dire ce qui va advenir de cette guerre. Donc, en tout cas, là, juste précisons quand même que Emmanuel Macron est obligé de se déclarer candidat à la présidentielle cette semaine, puisque le 4 mars à 18h, c'est la clôture par le Conseil constitutionnel du dépôt des parrainages. Donc on est dans une situation quasiment schizophrénique, où ils sont obligés quand même d'organiser un petit peu ça, parce qu'ils ne peuvent pas passer à côté de cela malgré tout, et où en fait ils sont à 100% sur l'agenda de la guerre. Donc il y a des conseillers d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui devaient partir au siège de campagne cette semaine pour devenir en fait les conseillers du candidat.
Voir des ministres.
Voir des ministres. Puisque Gabriel Attal,
dites-nous de qui vous parlez.
Julien de Normandie, qui est ministre de l'Agriculture, est plus que pressenti pour prendre la direction de la campagne. Et Gabriel Attal, qui est porte-parole du gouvernement, et c'est quasiment acquis, mais la situation est tellement mouvante qu'il devait aller au parti pour prendre le porte-parole du candidat. Je pense à d'autres conseillers, à la plume d'Emmanuel Macron qui s'appelle Jonathan Guémas, à son conseiller en communication qui s'appelle Clément Leonardouzi, il était acquis qu'eux aussi devaient partir au siège. Là, tout d'un coup, tout est un petit peu en suspens. Est-ce que Emmanuel Macron n'aura pas plus besoin d'eux pour porter la parole du président que du candidat? Et tout ça doit se décider dans les 4 jours qui viennent. Il y a quelque chose d'assez vertigineux, je dois dire. Même quand on leur parle, ils disent on est concentré, c'est sérieux, gravité, évidemment. Tout ça, c'est un petit peu des mots clés qui, en réalité, je pense, englobent un petit peu de stress.
Est-ce que je peux juste me permettre de vous redemander comment, au-delà des conseillers habituels, qui sont des conseillers politiques du président à l'Élysée, est-ce qu'il y a d'autres conseillers qu'on voit arriver, des militaires? Comment ça se passe, toutes ces réflexions sur cette guerre qui est à nos portes?
Alors nous, moi je peux parler de ce que je vois en tant que journaliste. Ce qu'il y a de particulier, c'est que l'Élysée n'a jamais autant communiqué avec la presse que sur cette guerre, puisqu'on est en direct avec eux, quasiment minute par minute, pour avoir... Donc il y a des briefs qui sont organisés effectivement avec les conseillers diplomatiques, mais qui sont les conseillers habituels et classiques. Il n'y a pas eu de renforcement de ce point de vue-là à l'Élysée. Ça fonctionne vraiment avec l'équipe habituelle. Sa conseillère diplomatique en communication est la même qu'avant. Et donc de ce point de vue-là, à part une surcommunication qui vise à la fois à expliquer mais aussi à mettre un petit peu en scène le président de la République comme le protecteur, il n'y a pas de bouleversement majeur de l'équipe de ce point de vue-là.
Il faut dire qu'il y en a des choses à dire. Hein. Je prends la liste des coups de fil, une partie seulement des coups de fil aujourd'hui. Ursula von der Leyen, le président Macron a parlé avec ses homologues du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan, de Géorgie, de Moldavie, du Bélarus. C'est sûr que ça en fait de la communication.
Ça passe du temps au téléphone.
Ça fait partie effectivement de l'information, de donner toutes ces infos. Pour en revenir au calendrier, Cécile Cornudet, c'est vrai que la fenêtre de tir s'est considérablement réduite.
Oui, ça va être cette semaine, comme disait Charlotte. Du côté de l'organisation de la campagne, il y a un dispositif déjà très verrouillé, très 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 complet, avec plein de possibilités offertes au président dès qu'il veut de faire un déplacement là, une mesure là. Enfin, vraiment, ça fait plusieurs mois qu'il y a tout un au QG, toute une équipe qui travaille. Et là, leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils savent que le temps du candidat sera réduit. Or, comme on est en Macronie et que tout se fait toujours pour et autour d'Emmanuel Macron, c'était lui la campagne seulement. Et là, ils sont en train de se dire, bon, puisqu'il aura moins de temps pour les meetings, les émissions, est-ce qu'on va essayer de désigner des personnes supplémentaires pour le dupliquer sur son temps de candidat, puisqu'il sera tellement pris dans son temps de président. C'est ça la réflexion sur l'équipe de campagne.
Grosse question aussi sur comment la campagne va se dérouler. Alors aujourd'hui, sur France Inter, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a répondu sur la question de savoir s'il allait y avoir un débat.
Si vous me demandez si on considère que cette élection présidentielle, le débat qui doit avoir lieu, peut être escamoté ou enjambé, la réponse est non. La réponse est non. Et on trouvera les moyens, et quand je dis on, c'est l'ensemble des forces politiques, que ce débat puisse se tenir.
Ah, vous pensez que ça, en fait, les modalités de la campagne, maintenant, elles relèvent d'un débat entre les...
Non, ce que je dis, c'est que je pense que l'ensemble des forces politiques se mobiliseront pour que ce débat puisse avoir lieu devant les Français.
Un débat, Laurence Perron.
Alors c'est toujours assez compliqué avec Gabriel Attal parce qu'en fait il dit des choses sans vraiment les dire parce que et en même temps il n'a pas le droit. On a cru sentir, et en parlant un peu avec lui hors émission, qu'il y avait potentiellement l'idée d'organiser un débat, alors pas avec l'ensemble des candidats, mais avec quelques candidats. Mais en même temps, voilà, de toute façon, c'est pas lui qui décidera, c'est sûr. Non, c'est... Voilà, mais il a eu l'air de nous dire que, en fait, la voie n'était pas complètement fermée.
Et il parle de débat aussi en règle générale. Il faut qu'il y ait des débats, pas des débats télévisés, hein, mais que les Français rentre dans cette campagne présidentielle parce que une campagne présidentielle, ça sert à donner un mandat à celui qui sera derrière et qui pourra ou non réformer parce que les gens auront tranché dessus. Donc il veut qu'il y ait une campagne présidentielle. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des meetings, des sujets proprement campagne présidentielle pour Emmanuel Macron. Il y a une question autour de la tonalité. Il voulait vraiment être dans une campagne positive par opposition à Éric Zemmour. Là, on voit bien dans son expression de jeudi qu'il y a de la gravité, qu'il parle de protéger les gens. On sent que c'est moins disruptif et joyeux que ça sera sans doute. Ça, c'est une interrogation. Jusqu'où il ira dans les propositions audacieuses.
Le meeting prévu le 5 mars à Marseille, Charlotte Chaffangeron, il est toujours d'actualité ou pas ?
Il est toujours d'actualité en sachant qu'il n'avait jamais été vraiment confirmé à 100%. Enfin, il y avait peu de doutes. Oui, mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ils évoluent vraiment au jour le jour. Donc, je me garderai bien d'affirmer à 100% ce qui se passera samedi prochain. On l'a vu avec le salon de l'agriculture. Hein. La veille, ils devaient encore y aller. Ils ont tergiversé dans la journée avant de décider dans l'après-midi qu'il y passerait finalement 2 heures le matin. Je pense que là, dans les jours à venir, on évoluera comme ça, un peu dans le noir, en permanence, quoi. Et eux aussi, d'ailleurs. Et sur les thèmes et sur le fond, à mon avis, c'est un peu pareil aussi. Je pense que c'est pas encore arrêté réellement. La tonalité est pas encore arrêtée.
Ça, c'était
réellement.
C'était mon stylo. qui partait se promener. C'est pas bien grave. Vous nous confirmez qu'un tel événement à 6 semaines d'un scrutin, c'est quelque chose de totalement inédit. Je vous dis ça parce que on a fait un téléphone sonne vendredi soir sur les conséquences politiques de cet événement. Il y a même des auditeurs qui nous ont dit, c'est à se demander s'il faudrait pas reporter le scrutin. Vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux
aussi,
Jean-Massier ?
Oui, je l'ai beaucoup entendu. La question est posée par beaucoup d'internautes. Est-ce qu'on va annuler l'élection présidentielle ? Est-ce qu'on va la reporter ? La question est posée par beaucoup de gens.
Ça énerve beaucoup les gens, manifestement.
Ça énerve beaucoup les gens. Moi, je continue. Alors, j'ai toujours pas de boule de cristal. Je suis comme vous. L'élection est au jour le jour. On est en train d'y réfléchir. Mais en réalité, non, il n'y a pas de raison qu'on annule un scrutin prévu dans 6 semaines. Les Français ne sont pas empêchés de mettre un bulletin dans une urne dimanche 11 avril. Donc ça va avoir lieu. A priori, il n'y a pas de raison. La guerre pour l'instant est en Ukraine. C'est vrai que ça peut évoluer vite. Des choses peuvent arriver qui pourraient amener à reporter l'élection. Mais encore une fois, on ne reporte une élection que si il y a des raisons qui empêcheraient de remettre en cause la sincérité du scrutin, donc si les gens ne peuvent pas aller au bureau de vote. C'est la seule raison.
Cécile Cornudet.
Oui, oui, ça ne me paraît pas possible. C'est la, il y a pas la, ce qu'a dit Gabriel Attal ce matin, il n'y a pas la guerre en France. Il y a la guerre aux portes de l'Europe, mais pas la guerre en France. Les gens sont très angoissés. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de crises qui se succèdent tous les 6 mois en France. Donc, si à chaque fois on devait reporter les élections, ce serait
impossible. Ça ouvrirait un précédent
impossible.
Même.
Voilà, ça ouvrirait un précédent. Donc, aujourd'hui, c'est absolument pas d'actualité.
En tout cas, vous êtes d'accord pour dire que, à travers cet événement, Emmanuel Macron est dans la cour des grands par rapport à certains autres candidats.
Il dialogue dessus. C'est pour ça qu'il reçoit François Hollande et Nicolas Sarkozy et pas les candidats eux-mêmes. Il est, voilà, il joue beaucoup de sa posture de président. Vous savez l'adage, dans la tempête, on change pas le capitaine. Il sait que c'est une situation qui politiquement le favorise.
Oui, mais.
Jean, juste une précision. Vous avez dit le 11 avril, c'est le 10, hein, le premier tour.
J'ai dit le 11, autant pour moi.
Oui, non, mais c'est pas très grave.
Mais je précise aussi que les enjeux internationaux, les questions internationales ont rarement été les questions prioritaires pour les électeurs. Donc Emmanuel Macron, il est pris entre deux. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il se surcrédibilise. Là, on est dans le Jupiter premier, chef de guerre. C'est un moment où il peut bénéficier de ça. Et en même temps, les Français restent mobilisés sur les questions de pouvoir d'achat, d'insécurité, de
mais
tout un tas de choses.
Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de conséquences en termes d'immigration et de pouvoir d'achat. Tout de suite, dès jeudi, dès le salon de l'agriculture, il dit il y aura un projet résilience. Il sait que, parce que les sanctions, ça va coûter aux Français eux-mêmes. Et donc, c'est anticiper ça.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'annule pas sa venue au salon de l'agriculture, c'est parce que ça aurait voulu dire qu'il n'y a plus rien dans la campagne. Or, il a bien conscience quand même que les Français attendent autre chose, et c'était un cadre justement pour prévenir des conséquences sur le pouvoir d'achat. Mais de toute façon, cette question du pouvoir d'achat, elle était dans le top de ses priorités pour les semaines à venir, guerre en Russie ou pas. Donc de toute façon, il continue quand même sa ligne, même s'il est obligé d'adapter.
Guerre en Ukraine.
C'est
juste un petit détail important quand même. Oui. Alors on va voir maintenant comment les candidats à la présidentielle se sont adaptés à cette crise majeure qui vient rebattre les cartes et surtout l'ordre des priorités.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Place à ce qui s'est passé ces derniers jours dans la campagne. Avec vous, bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire.
C'est l'heure de votre semaine politique, une semaine très particulière.
Et le vent souffle sur la campagne présidentielle française. Cette semaine, je pensais vous parler parrainage, vous parler de Douglas le chien, d'emploi fictif, voire même d'une entrée en campagne. Et puis, finalement, on a pris un coup derrière la caboche. War in the East, war in the West, war up north. La guerre en Ukraine, la guerre qui s'immisce dans la présidentielle française et dans cette campagne Tefal, cette campagne où rien n'accroche, l'Ukraine s'est évidemment imposée comme le principal sujet des derniers jours. Elle oblige certains candidats à quelques explications acrobatiques. À chacun sa tactique, Jean-Luc Mélenchon joue l'assurance à toute épreuve.
Depuis le début, je dis, si vous essayez d'établir l'OTAN à la frontière de la Russie, en Ukraine, vous aurez un incident majeur. Donc je pense ne pas m'être trompé.
Moins solide sur ses appuis, Marine Le Pen sent que sa position est difficile à tenir. Du coup, elle tente de mettre tout le monde dans le même panier.
Mais je pense que tout le monde a une forme d'admiration. Mais alors là, honnêtement, je considère que ce qu'il a fait est encore une fois éminemment condamnable.
Mais si vous avez fait
ça change en partie la vision que je peux avoir de lui.
Et puis, il y a Éric Zemmour. Éric Zemmour qui assure qu'il ne regrette rien, à commencer par ceci.
La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine.
C'était le 9 décembre sur France 2, il y a moins de 3 mois. Pas de regret non plus concernant aussi cette déclaration de septembre 2018. C'était sur le site du quotidien L'Opinion.
Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. C'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous voyez, on a connu ça après.
Vous rêvez d'un Poutine français?
Ah oui, j'en rêverais, oui.
Un Vladimir Poutine français, pas franchement le rêve de Jean-Yves Le Drian, au contraire.
Je pense qu'il va être le paria de la communauté internationale. Il ne pourra pas continuer à être seul dans ce monde, à être l'agresseur permanent et à vouloir diffuser la guerre comme moyen de gouvernance.
Le vent souffle sur cette campagne et cette semaine, la guerre en Ukraine a mis la pagaille à droite, notamment à cause de cette sortie de Clément Beaune, le secrétaire d'État en charge des affaires européennes.
Qu'ils soient d'accord ou pas d'accord sur la Russie, ils sont gênés en vérité.
Gênés.
Parce que les Républicains, cette partie de M. Fillon, qui est complice de M. Poutine.
Une accusation peu goûtée par Valérie Pécresse. La candidate LR a d'abord prétendu que Clément Beaune avait été recadré par Emmanuel Macron. Puis elle a elle-même fait savoir que François Fillon avait décidé de rompre ses liens avec la Russie.
François Fillon vient d'annoncer sa démission des conseils d'administration des deux entreprises russes dans lesquelles il siégeait. Et je crois que c'est une décision qui l'honore.
François Fillon s'est depuis fendu d'une tribune. Aujourd'hui, dans le journal du dimanche, il critique l'attaque militaire russe. Une défense très critiquée par un autre ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Ce matin, sur France Info, il s'en est vertement pris au choix de François Fillon.
Son honneur aurait été de ne jamais aller dans une société russe. Donc, je trouve ça pathétique. Cette défense, ce matin, dans le journal du dimanche, par François Fillon, je la trouve pathétique et triste.
Cyril, pour terminer, un sujet en marge du conflit.
Et le vent souffle fort sur cette campagne et il nous ramène sur l'échiquier politique français. Et si je vous en parle ce soir, c'est que cela augure sans doute de quelque chose de la prochaine restructuration de la droite française. François-Xavier Bellamy, candidat Les Républicains aux Européennes, a donné sa signature à Éric Zemmour et lui a même donné un peu plus.
Si demain il devait y avoir un duel entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, je voterai pour Éric Zemmour.
Et si on parle souvent de la désunion de la gauche, qu'en sera-t-il de la droite au lendemain du second tour si Valérie Pécresse ne l'emporte pas? Un grand bazar qui ne va pas aider à résorber le fossé qui se creuse entre les Français et les politiques. Écoutez ce qu'en disait Brice Teinturier, le patron de l'Institut Ipsos, mercredi sur cette antenne.
Mais moi, ça fait depuis longtemps que j'essaye d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut arrêter de se raconter des histoires sur une France passionnée par la politique. Il y a un détournement de plus en plus massif des Français de la politique traditionnelle. Il y a évidemment un public qui reste passionné, mais il est minoritaire.
Pour moi, l'occasion de vous citer Kerry James. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sont dans la hasse, les mêmes mangent.
Merci beaucoup, Cyril. La carrière, c'est riche quand même, hein, cette semaine politique. On va prendre les candidats, bah tiens, les uns après les autres. On va commencer peut-être par l'extrême droite et ses contorsions, on va dire, suite effectivement à ce conflit qui vient d'éclater dans un pays limitrophe de l'Union européenne. On a entendu un extrait d'Éric Zemmour qui disait c'est Poutine l'agressé, qui a été qualifié sur les réseaux sociaux de Vladimir Zemmour même cette semaine.
Par Valérie Pécresse, oui, ça, où il y a eu un hashtag comme
qui a été lancé par
le Pécresse, qui n'a pas si bien marché que ça, mais effectivement il y a beaucoup d'internautes font le lien très directement entre Éric Zemmour et Vladimir Poutine et ne se laissent pas avoir par son narratif soi-disant j'ai changé d'avis, non, voilà.
Cécile Cornudet, ça va être compliqué quand même pour Éric Zemmour, où il semblait dire qu'il assumait vendredi soir à Chambéry en meeting.
Je pense que c'est pour lui et Marine Le Pen que c'est le plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas seulement, comme chez Jean-Luc Mélenchon, une vision de l'OTAN, expansionniste, qui mettait de l'huile sur le feu. Il y avait en plus une fascination pour Poutine, pour la puissance, pour le nationalisme russe, et c'est ça aujourd'hui qui apparaît compliqué, parce que Poutine et le nationalisme russe, c'est bon, bah on envahit le pays voisin. Donc il condamne quand même très très fermement l'invasion, mais il reste effectivement à essayer de défendre une position de le vrai responsable, c'est quand même l'OTAN, il faut réfléchir à ça, et je pense que c'est très difficile, et ça donne pour la première fois depuis le début de cette campagne un vrai argument à Valérie Pécresse, pour mettre dans le même sac Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et vous savez, il y a la bataille pour la seconde place au second tour de la... Enfin, la seconde place en finale de la présidentielle.
Si on parle du principe qu'Emmanuel Macron y est voilà, de manière certaine. Hein.
Voilà, qui se joue entre ces trois.
Ce que semblent dire les sondages. Hein, on est d'accord.
Qui se joue entre ces trois. Et là, pour la première fois, elle a vraiment un argument. Et tout le week-end, et en plus, elle commence effectivement à aller sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, elle était plutôt la cible. Parce que les réseaux sociaux chez Éric Zemmour sont très... très fort pour la déstabiliser. Il y avait vraiment une opération. Là, il essaye d'inverser la tendance. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, c'est vrai que c'est cette extrême droite qui aujourd'hui est le plus fragilisée. Jean-Luc Mélenchon aussi.
On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais qu'on finisse sur le camp de la droite extrême. Est-ce qu'il y a des remous? Est-ce que vous savez s'il y a des remous, par exemple, du côté de Reconquête? Est-ce qu'il y a des remous du côté du RN suite à ce qui s'est passé?
Non, pas vraiment. Jean. En tout cas, j'en observe pas. Je pense sincèrement que ça intéresse assez peu les électeurs d'Éric Zemmour.
Je suis assez d'accord avec Jean, voilà. Et de Marine Le Pen également.
Ils ne vont pas leur en tenir rigueur, ils sont obsédés par d'autres enjeux, immigration, insécurité toute la journée. La question de savoir s'ils sont proches d'un chef d'État un peu taré à l'est de l'Europe, en vrai, vraiment pour les électeurs et pour leurs équipes, c'est pas si important que ça. Ils leur en tiendront pas rigueur, je pense pas.
Après, peut-être que ça peut limiter un peu les ralliements, notamment du côté LR. On a vu que François-Xavier Bellamy, effectivement, disait qu'il voterait plutôt Zemmour que Macron au second tour, mais c'était avant l'invasion. Donc je ne sais pas s'il dirait la même chose aujourd'hui. On attendait aussi le ralliement là, je crois, de la semaine prochaine de Marion Maréchal. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Peut-être que de ce point de vue-là, c'est plus compliqué.
Charlotte Chaffangeon.
C'est-à-dire que le fait que Éric Zemmour avait une fascination pour Vladimir Poutine, le fait qu'il entre en guerre avec l'Ukraine, à mon avis, sur le fond, ne change pas cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme surprise à découvrir un Vladimir Poutine belliqueux, quand bien même là, on soit dans une situation complètement extrême et dramatique. Les guerres de Vladimir Poutine sont connues et son envie d'en découdre est connue également. Donc la situation fait qu'il y a un émoi, comme le disait Cécile, c'est vrai que sur l'intérêt des Français, malgré tout, nous on le voit sur les lectures et les connaissances, qui est fort, qui est grand, donc ils sont quand même bien obligés de condamner et de se positionner. Mais de là à dire, un, que chez leurs électeurs, il n'y a pas des gens qui sont aussi fascinés par Poutine et qui trouvent ça finalement pas mal, hein, un homme fort et viril qui agit...
Ça c'est chez ceux qui sont convaincus et chez
ceux qui sont convaincus,
chez ceux qui pourraient convaincre.
Et chez ceux qui pourraient convaincre, je suis assez d'accord sur le fait que les questions internationales ne guident en général pas le vote final.
Et puis surtout, il y a cette question du pouvoir d'achat. Mmh. C'est-à-dire que quand, effectivement, les sanctions, à un moment donné, vont produire leurs effets, et ça, on sait qu'elles vont produire, même si le gouvernement va décider, là, dans les jours à venir, d'un petit matelas pour amortir tout cela, je pense qu'on peut compter sur Marine Le Pen pour, à un moment donné, faire monter le sujet.
Elle le dit déjà. Les sanctions, parce que ça peut...
Exactement.
Et on va l'entendre dans quelques minutes, mais juste, quand même, pardon d'insister, mais sur Éric Zemmour, la semaine dernière, il se vantait d'avoir parlé avec Donald Trump, et aujourd'hui il y a Donald Trump qui continue, il fait l'éloge de Vladimir Poutine. Poutine l'intelligent.
Tout en condamnant quand même. Faut dire quand même qu'il condamne l'invasion.
C'est quand même pas très simple, Charlotte Chavangeau.
Non, c'est pas très simple, mais au risque de me répéter, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de vraiment surprenant et étonnant dans les prises de position et les prises de parole de chacun, dans ce que Donald Trump a dit comme dans ce qu'Éric Zemmour dit, parce qu'Éric Zemmour continue effectivement, comme Cécile l'a bien expliqué, à mettre des mets derrière toutes ces condamnations. Donc on n'est pas non plus dans un retournement de situation absolue où Éric Zemmour tout d'un coup viendrait dire que tout ça de toute façon c'est de la faute des Russes et que les Ukrainiens n'y sont pour rien, que l'Europe n'y est pour rien et qu'on s'est toujours bien comporté et qu'il n'y a aucune explication à cette invasion.
On voit qu'il a du mal à trouver des nouveaux arguments. Là par exemple, pour critiquer Emmanuel Macron, il dit il n'a pas réussi à faire la paix, il faudrait qu'il nomme Nicolas Sarkozy et Hubert Védrine pour être des émissaires de paix. Bon, c'est voilà ce genre de proposition.
Après avoir dit, qu'il parte là-bas pour négocier.
Voilà, donc et que lui dit, moi, je réunirai tout le monde. Bon, on sent quand même. Je trouve que ça patine un petit peu. C'est pas évident de. Il a pas complètement fait machine arrière. Il veut pas tout lâcher et en même temps, il a du mal à embrayer sur quelque chose.
Et ce sera quand même intéressant, même si on a dit qu'on n'abusait pas des sondages, de suivre
regarder,
la prochaine enquête.
D'ici une semaine.
Voilà, qui sortira.
D'autant qu'il était en train de prendre beaucoup à Valérie Pécresse, donc des électeurs de LR un peu traditionnels. Il était en train de se substituer à elle pour être le candidat de la droite. On pouvait avoir Le Pen et Zemmour fort et une Pécresse faible. Et c'est ça qui se joue, parce que les gens qui trouvaient qu'elle n'avait pas été très bonne à son zénith, Valérie Pécresse, est-ce que pour autant ils voteraient pour un Zemmour qui est fanat de Poutine? C'est pas sûr.
Alors merci de me faire la transition, parce que Valérie Pécresse, la voici. Elle était en Normandie hier. Elle s'est exprimée près des plages du débarquement en fustigeant notamment donc ceux qui, dit-elle, ont défendu la Russie.
Honte à eux. Je le dis solennellement, tous les candidats à la présidentielle qui professent une admiration sans borne vis-à-vis de M. Poutine, que ce soit M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Zemmour, sont disqualifiés pour représenter le peuple français. Ils sont disqualifiés pour présider la France.
Le ton a-t-il changé?
C'est pas encore ça.
Après, c'est vrai que elle a pas eu une attitude ambiguë. Elle sent sur le fond, si on n'écoute pas la forme, elle s'en sort quand même plutôt bien. Elle a dit qu'Emmanuel Macron avait quand même eu raison d'aller négocier. Du coup, là maintenant, elle re-cible ses adversaires parce qu'elle a pas fait la faute de soutenir excessivement la Russie. Donc, bon, elle peut, il y a un petit coin pour pouvoir l'enfoncer et espérer reprendre un peu d'air.
Il y avait donc une épine dans le pied de, je sais pas s'il faut dire ça, de Valérie Pécresse, mais c'était quand même François Fillon. Cette démission, c'est quelque chose d'important, Charlotte Chaffangeon,
C'était quelque chose de, à mon avis, incontournable. C'était quand même intenable pour lui de rester dans ces conditions. Je pense que Valérie Pécresse aurait quand même pu s'en désolidariser s'il l'avait pas fait. S'il était resté. Alors, je suis pas sûre que ça aurait pénalisé directement Valérie Pécresse que François Fillon reste dans ses conseils d'administration, puisque c'est quand même une affaire assez personnelle et qu'il est plus du tout actif depuis quand même quelques années dans la vie politique. Mais c'est sûr que c'était pas nécessaire que... pour elle d'avoir un boulet comme ça en plus dans une campagne qui est compliquée.
Pour en revenir juste une seconde à Éric Zemmour, et il avait fait comprendre qu'il rêvait d'un grand meeting au Trocadéro avec 50 000 personnes, un peu sur le modèle de ce qu'avait fait François Fillon la dernière fois en 2017. Je ne sais pas si du coup l'exemple va forcément le tenter toujours. Est-ce
aussi,
que c'est toujours
que
prévu cette chose-là?
C'était aussi Nicolas Sarkozy.
Oui, c'était aussi Sarkozy. C'est vrai, c'est un beau souvenir pour une partie de la droite.
Je pense que ça, c'est pas un problème pour
mais
lui.
C'est fascinant de voir à quel point l'ombre de François Fillon, qui est quand même retiré de la politique depuis quand même 5 ans, continue à planer sur cette campagne, parce qu'on se rend compte que, par exemple, Valérie Pécresse, effectivement, il lui retire une épine du pied en quittant ses mandats au sein de cette entreprise russe, mais pour autant, elle a besoin de le dire, elle a besoin...
Elle a pas besoin d'une deuxième affaire Fillon, enfin, les Républicains n'en avaient pas besoin.
Et oui, mais elle pourrait ne pas avoir besoin de Fillon non plus.
Elle pourrait, mais oui, vous avez raison, François Fillon continue à garder. Mais en fait, de fait, là, sans même le vouloir lui, effectivement, François Fillon, ça fait tâche énormément pour Valérie Pécresse et sur le parti des Républicains, ces mandats dans des entreprises russes, ça faisait extrêmement tâche et ça commençait à devenir vraiment une épine dans le pied. Je ne sais pas du tout s'il y a eu un échange entre elle et François Fillon, je ne sais pas du tout si ça a été négocié, je pense pas, mais je pense qu'elle a soufflé quand elle l'a appris, elle a dit bon bah très bien, voilà, ça c'est fait, et puis s'il vous plaît, passons à autre chose.
Sinon, Cécile Cornudet, sur le reste de sa campagne, évidemment, la semaine a été très particulière, mais est-ce qu'elle a repris un peu du poil de la bête, je ne sais pas si on peut poser la question de cette façon par rapport au Zénith.
Elle a fait un meeting une semaine après au Canet dans le Var, qui était beaucoup mieux parce qu'elle était sans notes, elle a improvisé, ça c'était beaucoup mieux, mais après il y a eu l'histoire de Libération qui était un petit peu quand même problématique, qui m'a jeté une grosse tache sur la sincérité du vote à la primaire.
Alors on va juste rappeler en 2 secondes, hein, Charles Chaffangeon, ce que c'est l'histoire de Libération.
Oui, alors en gros c'est une enquête qui est parue dans Libération mercredi et qui jette un voile un petit peu dérangeant sur l'organisation de la primaire LR qui a débouché sur la désignation de Valérie Pécresse début décembre, parce que les journalistes de Libération, donc qui suivent la droite, Dominique Albertini notamment, qui ont enquêté sur cette affaire, se sont rendus compte que dans le fichier des adhérents il y avait des inscrits extrêmement suspects. Alors on a beaucoup rigolé parce qu'il y a un inscrit qui est un chien qui ne s'appelle pas Douglas, c'est un nom d'emprunt, je dois le dire, enfin qui a été trouvé par un journaliste de Libération.
Pour protéger le chien.
Pour protéger le chien et son propriétaire. Voilà. Mais au-delà du chien qui n'a pas voté, évidemment, comme se sont empressés de préciser les dirigeants LR, il y a des personnes qui sont décédées après leur inscription. Il y a des personnes qui n'existent pas. Il y a des personnes qui ne parlent pas français. Il y a des personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler ni des Républicains, ni de Valérie Pécresse, ni de Xavier Bertrand. Il y a des témoignages de proches, de candidats qui disent, voilà, moi j'ai donné ma carte bleue à la famille, j'ai dit jusqu'à 2000 euros, tu peux y aller pour inscrire. Les gens ont dit ok et n'étaient même pas au courant de pour qui ils votaient. Donc ça jette voilà un voile sur la sincérité du scrutin, sur le sérieux de son organisation. Libération ne dit pas que Valérie Pécresse aurait dû perdre cette élection. Ça c'est important de le préciser parce que c'est pas l'histoire. Ni qu'elle a fait des choses illégales elle-même et en conscience, mais que il y a des gros problèmes dans ce fichier adhérent et dans les gens qui ont voté, qui méritent qu'on s'y attache plus que ça, qu'on regarde plus que ça, ce qu'on continue d'ailleurs à faire.
Et ça a beaucoup fâché Philippe Bas, qui était le garant de
ça a beaucoup fâché beaucoup de gens chez les Républicains.
Et le problème, c'est que du coup, ça en fait un... Il n'y a pas tellement de débat d'idées dans cette campagne, on l'a beaucoup dit, mais il y a beaucoup de railleries via les réseaux sociaux. Et ça a contribué à faire de Valérie Pécresse un personnage dont on se moque, dont on se moque des mines, etc. Et ça, c'est très difficile de s'enlever ce sparadrap-là.
Un petit peu comme Anne Hidalgo à gauche.
Bouc émissaire de moquerie, dans une campagne, c'est important.
Bah oui, bien sûr.
Non, mais ce qui est embêtant surtout, c'est que Valérie Pécresse ambitionnait de représenter un petit peu une rupture avec l'ancien monde de droite. Elle joue beaucoup sur le fait qu'elle est une femme, que voilà, la modernité, etc. Et en fait, là, on est un peu dans des vieilles pratiques à l'ancienne qu'on a vu déjà chez LR, au Parti socialiste, etc. Et on est voilà dans les vieilles méthodes. Je m'étonnais avec un proche d'un candidat. Qu'on s'amuse du chien, alors qu'il y a quand même plus grave dans l'article et que même les Républicains réagissent là-dessus. Il m'a répondu, mais les personnes décédées, c'est habituel chez nous. Et donc en fait, on se rend compte que voilà, il n'y a pas de grande rupture avec cette élection, quoi.
Voilà pour cette précision sur cette enquête de Libération. Allez, on va parler de la gauche maintenant, de Jean-Luc Mélenchon notamment. Il était en route pour la Réunion lorsque la guerre a commencé. C'est donc depuis l'océan Indien qu'il a commenté les événements des derniers jours. Lors d'un meeting à Saint-Denis, il a reconnu une erreur. J'ai dit qu'il n'y avait pas de risque d'invasion, c'est vrai, a-t-il ajouté. Mais il faut citer la fin de la phrase de l'aveu même du président de l'Ukraine. Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon a critiqué les tractations sur les sanctions et il a lancé une sorte d'avertissement à Emmanuel Macron.
Je mets en garde le président de la République contre la tentation du cynisme, qui serait, après tant d'erreurs, de s'agiter dans le rôle qui plaît toujours à un garçon, petit comme grand, du grand soldat avec ses arcs et ses flèches.
Et il a ajouté, au lieu d'envoyer du matériel de guerre, vous ne croyez pas que le plus urgent est de le cesser le feu et les négociations. Laurence Perron, vous avez l'habitude de suivre Jean-Luc Mélenchon, vous le connaissez bien. Évidemment, c'est pas le cas de, c'était pas le même cas que Marine Le Pen et Éric Zemmour par rapport à la Russie, mais il y avait quand même un petit souci.
Il y a quand même un petit souci avec Jean-Luc Mélenchon. De toute façon, en 2014, lorsque déjà il y avait eu des tensions, Jean-Luc Mélenchon était sur un positionnement, alors qu'il appelait pas non-aligné. Aujourd'hui, il parle de non-alignement et d'une diplomatie altermondialiste. Il a trouvé des nouveaux termes. En fait, je pense que Jean-Luc Mélenchon a une manière de voir le monde très héritée, finalement, de la guerre froide. Finalement, il a quasiment le même âge que Vladimir Poutine. Et en fait, il pense le monde en bloc. Et pour lui, il y a un problème avec le carcan qu'il appelle le carcan atlantiste. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Fabien Roussel, pareil, sont plutôt sur une position de « on sort de l'OTAN », alors plus ou moins progressivement. Et Jean-Luc Mélenchon le dit plus aujourd'hui, mais lors de précédents meetings, il expliquait qu'en réalité, l'OTAN et donc les États-Unis menaçaient d'une certaine manière la sécurité de la Russie en commençant à vouloir placer ses pions en Ukraine et que on serait bien inspiré, nous, Européens, de ne pas accompagner ce mouvement-là. Aujourd'hui, face à l'invasion, qu'effectivement il n'avait pas prévu, comme la plupart des gens ne l'avaient pas prévu, il est obligé de faire un peu machine arrière, mais dans son schéma diplomatique à lui, il est hors de question d'être, en gros, ce qu'il dit, d'être le bagage à main des États-Unis.
Est-ce qu'il y a des remous en interne à la France insoumise ?
Alors, beaucoup moins. Il y en a eu des remous. Mais la plupart des remous ont eu lieu, en fait, à l'issue de la campagne de 2017. C'est-à-dire que tous les gens qui devaient partir sont partis à ce moment-là. Tous ces gens qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont Jean-Luc Mélenchon pensait, que ce soit certains étaient même plus avancés que lui dans « il faudrait se rapprocher de la Russie », etc. Ces gens-là sont partis. D'autres qui étaient en désaccord sont partis aussi. Aujourd'hui, il a d'une certaine manière clarifié les choses. C'est Clémentine Autain qui le dit le mieux, qui, elle, avait des doutes sur sa diplomatie et qui dit « très bien, il y a eu un bouger de la part de Jean-Luc Mélenchon, on en prend acte et on continue la campagne ».
Cécile Cornudet, je vous voyais tiquer un peu.
Non, je ne tiquais pas, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il... politiquement, il devrait un peu moins en souffrir que les personnalités d'extrême droite. Il y a Fabien Roussel aussi, hein, qui a eu un positionnement qui n'était pas très éloigné non plus. Après, ce qui va être compliqué, c'est que la crise actuelle va sans doute redonner du lustre à l'OTAN et à l'Union européenne. Donc pour eux deux, ça va être voilà, le combat n'est pas fini d'essayer de démontrer que ce sont finalement ceux qui sont à l'origine des troubles qu'on connaît.
Un petit mot des autres candidats de gauche. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Christiane Taubira, tous les trois sont allés dans les rassemblements de soutien à l'Ukraine, Charlotte Chaffangean.
Oui, alors Anne Hidalgo a même globalement dit que sa campagne maintenant c'était plus qu'une campagne de soutien à l'Ukraine, hein, puisqu'elle a expliqué que son meeting de Bordeaux serait consacré uniquement à la défense du peuple ukrainien. Là, bon, on est dans des situations, on a dit qu'il fallait pas prêter trop d'attention aux sondages tellement compliqués. Quand on parle de Christiane Taubira, qui probablement ne pourra pas être candidate, ou d'Anne Hidalgo dans cette campagne, que je pense que l'enjeu de leur positionnement n'est même plus un enjeu électoral, quelque part. Enfin, là, la question, c'est, pour Christiane Taubira, est-ce qu'elle sera même candidate? Et pour Anne Hidalgo, est-ce qu'elle va dépasser les 2%?
Enfin, et puis, est-ce que si Christiane Taubira s'en va, ça va lui profiter à elle, ou est-ce que ça va profiter à Yannick Jadot?
Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, non, voilà.
Oui, mais c'est même pas deux. Oui.
Ces trois candidats-là, Jadot, Hidalgo et Taubira, qui ne sera sans doute pas candidate parce qu'elle n'aura pas ses parrainages, sont aujourd'hui effectivement à un tel étiage que, effectivement, c'est compliqué d'arriver à penser que leur. Quelle que soit leur expression, ça puisse faire mouche dans l'opinion publique.
Mais pour le coup, du coup, elles ont décidé de passer à l'offensive et on a vu Yannick Jadot, Anne Hidalgo et surtout leur lieutenant s'en prendre violemment à Jean-Luc Mélenchon, décider de jouer la carte du. Vous voyez bien, en fait, pour séduire des électeurs, des électeurs tentés par le vote utile Mélenchon, se dire non, finalement, en fait, c'est une connerie, il est poutinien, etc. Je suis pas sûr que cette carte-là fonctionne, mais c'est assez agressif en ce moment et sur les réseaux sociaux, ça chauffe.
Ils font ce que Valérie Pécresse fait avec Le Pen, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu moins audible.
Mais c'est dans l'autre camp.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Et oui, vous êtes toujours à l'écoute d'un dimanche de campagne avec cette question ce soir. Quelle campagne quand la guerre est dans tous les esprits, sachant que la guerre n'est pas que militaire, elle concerne aussi l'information. Et à ce titre, il faut s'interroger sur la façon dont Moscou agit sur les réseaux sociaux. C'est le thème de votre chronique au Like Citoyen. Ce soir, Jean Massier, la Russie mène une guerre sur le terrain. Sur Internet.
Et oui, et ce n'est pas nouveau. Il faut bien comprendre qu'Internet est un refuge depuis le début pour des personnes anti-système, les amateurs de récits alternatifs. Internet bouillonne de toute une galaxie d'influenceurs qui remet systématiquement en cause ce qu'ils appellent les versions officielles des faits sous-entendus occidentales. À leurs yeux, du coup, la Russie apparaît sympathique, voire accueillante. Le pouvoir poutinien a parfaitement compris ça et il a décidé d'en jouer à fond. Je vous rappelle que c'est la Russie qui a accordé l'asile politique à Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain. Un symbole de liberté, mais qui cache un système souterrain de déstabilisation. Désormais, à chaque grande élection, une véritable armée numérique souterraine s'active pour influencer les résultats. On se souvient des interférences directes dans la campagne d'Hillary Clinton en 2016, du soutien massif à l'élection de Bolsonaro au Brésil en 2018, ingérence dans la campagne du Brexit et jusqu'à la France avec les Macron Leaks en 2017. À chaque fois, la Russie.
Et ça, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais il y a aussi une vitrine tout à fait officielle à cette ingérence russe.
Et oui, c'est la fameuse chaîne de télévision Russia Today, véritable voix du Kremlin dans le monde et sur Internet. Cette chaîne a d'ailleurs été créée en 2005 pour donner une image positive de la Russie dans un contexte de soulèvement pro-démocratie, notamment en Ukraine. Depuis 4 jours, ce média financé à 100% par Moscou couvre la guerre en Ukraine uniquement sous l'angle narratif de Vladimir Poutine. Par exemple, on y parle pratiquement que du Donbass et de la ville de Donetsk, quasiment jamais de ce qui se passe à Kiev et des bombardements russes. Depuis longtemps, la France grince des dents avec RT France, comme on appelle cette chaîne. Écoutez comment Emmanuel Macron répondait à Xenia Fedorova, la patronne d'RT France, en pleine conférence de presse. Vladimir Poutine était à quelques mètres de lui. Écoutez.
Je vais commencer par la deuxième question. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne.
Vous voyez, c'est tendu. 5 ans plus tard, les critiques n'ont pas cessé. Le sénateur Laurent Lafon a réclamé la suspension immédiate de la chaîne de télévision russe pour contrer la propagande poutinienne sur l'Ukraine.
Alors ça, c'est pour la télé, mais il y a aussi le web.
Et oui, Emmanuel Macron en a parlé, c'est le site Sputnik. Si vous jetez un œil sur ce site, vous serez étonné de ne jamais y lire les mots « déclaration de guerre », « attaque » ou « invasion », par exemple, au sujet de l'Ukraine. Et c'est pas une surprise, le pouvoir russe a interdit à ses médias d'utiliser certains termes. Officiellement, il s'agit d'une opération militaire spéciale dans le cadre d'un maintien de la paix.
Et dans ce contexte, on parvient à se protéger en France ?
Il a fallu légiférer. Depuis décembre 2018, la France dispose d'une loi, baptisée « Loi contre la manipulation de l'information ». C'est un texte qui doit permettre de lutter, je cite, « contre la diffusion de fake news via les tuyaux de propagande que sont, que sont les réseaux sociaux et les médias sous influence d'un État étranger ». Mais ce n'est pas tout. On l'a appris il y a quelques minutes avant le début de cette émission, que l'Union Européenne allait interdire, je cite, « la machine médiatique du Kremlin, la chaîne RT et le site Sputnik ne seront bientôt plus autorisés à, je cite, répandre leurs mensonges au sein des pays européens. » Un chiffre révélateur pour terminer et vous donner une idée des enjeux. Microsoft estime que 58% des cyberattaques liées à des États à travers le monde sont le fait de la Russie. Ce qui explique que désormais, plus aucun grand scrutin n'a lieu sans que les pays concernés ne craignent l'ingérence russe.
Merci beaucoup Jean Massier pour ces précisions. Effectivement, c'est Ursula von der Leyen qui a annoncé ces nouvelles tout à l'heure et on va certainement y revenir dans le journal de 19h. Il nous reste 4 minutes et il faudrait qu'on aborde effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile Cornudet, qu'on aborde les questions qui vont découler de cette crise. Les questions sur les conséquences économiques, vous en parliez aussi, Laurence Perron. Marine Le Pen, elle s'inquiète déjà pour les prix.
Selon la nature des sanctions qui vont être prises et leur application, il peut y avoir des conséquences terrifiante sur le pouvoir d'achat des Français, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des matières premières. Si on ne tient pas compte de cette situation, eh bien, on va se retrouver avec des prix qui vont doubler, voire pire.
Voilà, et hier, lors de sa visite au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a parlé souveraineté alimentaire et il a appelé à la résilience.
Cette crise durera, cette guerre durera. Et donc, je voulais tout simplement vous dire que nous serons là pour accompagner nos agriculteurs, pour construire les réponses, pour essayer de sécuriser au maximum l'énergie et les intrants, pour accompagner en termes de revenus et pour accompagner nos compatriotes aussi sur les impacts en termes de coûts immanquablement.
Et voilà comment on revient au sujet qui concerne directement la vie de tous les jours.
Oui, au Salon de l'Agriculture, d'ailleurs, il a particulièrement parlé des filières viticoles, du prix du vin, des céréales, de l'alimentation du bétail, en plus de l'énergie. Donc, ils sont quand même des thèmes du quotidien. Donc, il est au Salon de l'Agriculture, mais ça dépasse évidemment ça. Effectivement, il a parlé d'un plan de résilience qu'il n'a pas détaillé encore. Il a dit qu'il aiderait quoi qu'il advienne. Il n'a pas parlé de quoi qu'il en coûte, ce qui a quand même été pendant deux ans, pendant la crise du Covid, la ligne économique du gouvernement, hein, une forme par ailleurs sur la question des salaires, de nationalisation des salaires, comme aiment dire les macronistes. Là, rien de tout ça. On est quand même encore dans un niveau de flou assez important sur les aides que le gouvernement mettra en place justement pour la question du pouvoir d'achat, d'autant que à quel moment les conséquences seront perçues dans le quotidien des Français, c'est quand même encore aussi un petit peu flou.
Laurence Perron.
Oui, et d'autant que les sanctions, pour l'instant, on ne les connaît pas toutes. C'est-à-dire que la liste, par exemple, des banques qui doivent être impactées par l'abandon du système SWIFT, pour l'instant, elle n'est pas encore établie parce que c'est une négociation européenne et on sait très bien que les intérêts de l'Allemagne, de l'Italie ne sont pas les mêmes que la France. Et pareil, notre dépendance à l'énergie, au gaz russe n'est pas le même que nous. C'est 18%, je crois. L'Allemagne, c'est 100%. Donc, on est forcément dans une négociation et dans des impacts sur la vie de tous les jours qui ne sont pas les mêmes. Mais comme on est l'Europe, eh ben, il faut à un moment donné que ça se fasse de manière concertée.
Cécile
Cornet. Il y a le cours des céréales aussi, parce que la Russie est un gros producteur de blé. Le blocus de 2014 sur la Russie avait beaucoup fait souffrir les agriculteurs français. Donc, quand il va au Salon de l'Agriculture, c'est pour dire aussi le plan résilience, ce sera pour vous. On vous aidera là-dessus. Et sur les prix du gaz pour les particuliers, il y a aujourd'hui un blocage des prix jusqu'au mois de juin et Bercy s'apprête à annoncer que ce sera au moins jusqu'en décembre. Ce sera déjà ça. Après, il y a toutes les questions d'approvisionnement. Ils disent que les stocks marchent jusqu'à la fin de l'été. Mais après, pareil, il faudra essayer de trouver d'autres choses. Donc, il y a des discussions avec d'autres producteurs de gaz.
Donc, c'est évidemment un dossier à surveiller de très près, Charlotte Chaffonjon. À surveiller en 10 secondes dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?
Pour Emmanuel Macron, le plus important, ça va être de réussir, vu qu'il doit se déclarer candidat vendredi, à équilibrer cette partie de ses derniers mois de quinquennat qui sont primordiaux pour lui, parce que ça ne concerne pas que la Russie et son rôle de chef de guerre.
Pour vous, Laurence, allez, 5 secondes.
Le débat qui va avoir lieu le mardi 1er mars au Palais Bourbon sur justement les conséquences de l'invasion en Ukraine.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, ce sera le journal de 19h.